Bienvenue sur Radion, à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire chaque mercredi à 21h, une émission proposée et présentée par Yannick Petit. Ce soir, je vous invite à rencontrer quelques-uns des auteurs et éditeurs rencontrés le 31 octobre dernier, lors du 21e Festi-Livre de Moneto, organisé par l'association d'animation culturelle Anicom que préside Pierre Monin. Pour ouvrir notre rendez-vous hebdomadaire, je vais d'abord laisser la parole au lauréat du Grand Prix Festi-Livre Bourgogne 2010, récompensé pour son recueil de 6 histoires, Les historiettes des granges Raffoux, aux éditions Vaillant. Écoutons donc Sylvain Luinati, qui justifie, devant le micro de Radion, le titre de son recueil d'historiettes.
Puis-je vous demander, même s'il est présent, de vanter le livre du lauréat Grand Prix Festi-Livre Bourgogne, c'est-à-dire Les historiettes des granges Raffoux de Sylvain Luinati, avant de lui donner la parole?
Je dirais que c'est un titre tout à fait curieux et bizarre et attrayant. Les historiennes des granges Raffoux, au départ, j'ai eu du mal quand même à le mémoriser. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Qu'est-ce que c'est que ces historiettes? Et puis je me suis penchée, j'ai été absolument passionnée. Et c'est un peu comme les contes des mille et une nuits, on attend la suite, chaque soir on attend la belle histoire qui va arriver. Et puis quand on va un peu plus profond dans le texte, eh bien on découvre toute une démarche humaniste qui m'a semblé absolument essentielle, c'est-à-dire la lutte contre tous les intégrismes qui sont là et qui sont essentiels, je crois, dans notre monde.
Nicole Vaillant, je vous remercie, vous restez à nos côtés. Je me tourne cette fois-ci du côté du lauréat, donc du Grand Prix Festi-Livre Bourgogne, décerné par Anicom et les éditions Vaillant, représentées par Nicole Vaillant, que vous venez d'entendre à l'instant. Alors, Sylvain Luinati, que sont donc ces historiettes des granges Raffoux? Raffoux, rat, l'animal, et fou, l'adjectif dément, fou. Que sont ces historiettes? Est-ce que vous pouvez nous les présenter?
Eh bien, Madame Vaillant a si bien parlé que j'ai peur de dire beaucoup de platitudes à la suite. Eh bien, écoutez, déjà, le titre « historiette » est repris des fameuses historiettes de Talmandereo du XVIIe siècle. Des petites histoires qui n'ont l'air de rien, comme des petits bavardages, mais en réalité, où les choses graves sont dites sans en avoir l'air. Et pourquoi les granges Raffoux? Parce que je voulais le nom d'un hameau qui sente un peu la province profonde, et particulièrement le Nivernais, qui est cher à mon cœur.
Alors vous êtes né à Paris, Sylvain Luinati, vous êtes, on va le dire, on peut le dire, vous êtes né en 1956, vous êtes agrégé d'italien. Vous êtes le frère de quelqu'un que nous connaissons bien dans l'émission Wagon Livre, c'est Eve Allard,
voilà,
poétesse qui habite à Toussy. Et vous connaissez bien la Nièvre?
Tout à fait,
j'en
oui.
J'en étais très surpris, je ne sais pas pourquoi, mais vous connaissez bien la Nièvre parce
très bien.
Que pour des raisons familiales.
Tout à fait, parce que ma mère est nivernaise et c'est elle qui nous a donné envie enfin qui nous a donné l'amour de cette région. Nous avons des attaches, effectivement, dans une région très particulière du Nivernais, la région de Prémery, au centre du département de la Nièvre.
Alors,
j'ai passé mes vacances quand j'étais enfant.
Six historiettes, donc, Sylvain Luinati, qui sont tantôt déclinées sur le mode du polar, du fantastique, du merveilleux, c'est difficile de
du polar, non. Du fantastique, non plus, puisque ce n'est ni du fantastique ni de la science-fiction, encore moins, puisque ça se passe au temps présent ou éventuellement au temps passé, à des époques qui me sont chères, que je connais un peu en tant qu'italianiste de métier. Je vous donne un exemple. Une des six histoires se passe au tout début du XVIe siècle, un moment crucial pour l'histoire de l'Italie européenne, au moment des premières guerres d'Italie, où un roi de France descend en Italie pour mettre un peu de bazar parmi les différents États italiens. Voilà. Et j'ai voulu raconter une de ces une chose qui s'est passée très importante dans une petite région d'Italie. C'est un exemple que je vous donne. Également, j'avais à cœur de parler du Danemark, un pays que je connais très bien. Donc, j'ai inventé une histoire à partir d'une chose tout à fait réelle. L'importance de la traduction, l'importance de la langue traduite, de la langue de départ, de la langue d'arrivée. Voilà pourquoi j'ai parlé du Danemark. Chaque histoire évoque un fait toujours de départ, un fait avéré, un fait historique, à partir duquel je brode, voilà.
Alors, broderie aussi sur la couverture avec une très jolie poupée venant d'Albanie.
Tout à fait. Alors là, il s'agit de peut-être le seul élément autobiographique et complètement autobiographique, puisque j'ai eu la chance de participer au premier voyage d'occidentaux dans ce pays, l'Albanie, en 1974. J'avais à l'époque 18 ans. Et j'ai rapporté cette poupée. C'est la seule chose d'à peu près bien qu'ils avaient à vendre à l'époque, puisque c'était très pauvre et qu'ils ne vendaient rien, il n'y avait rien. C'était très, très, très pauvre. Voilà, et ce voyage a été tellement marquant pour moi, vous imaginez, dans un pays si différent, un pays complètement forteresse, fermé, pro-chinois à l'époque. J'ai voulu évoquer ce moment de mon adolescence et évoquer ce pays qui a bien changé, puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de Mercedes à Tirana que dans les rues de Paris. Voilà.
Vous avez obtenu donc ce Grand Prix Festilivre Bourgogne. Ça vous encourage à écrire d'autres historiettes ?
Bien sûr, tout à fait.
Mais vous ne l'aviez jamais publié auparavant en tant qu'agrégé d'Italie ?
Non, parce que j'étais pris professionnellement et que je n'avais pas eu tellement le temps, le loisir. Il a fallu malgré tout pas mal de temps pour que j'écrive ces histoires. Il a fallu plusieurs années. Je me suis repris à plusieurs reprises. Ça a été long. J'ai fait beaucoup de recherches historiques. Ces recherches déjà préliminaires m'ont demandé du temps, plusieurs années avant que je n'écrive. Et évidemment, j'ai quelques projets en tête, oui.
Ont débarqué et la tempête peut commencer, vidé de tout désincarné, il ne s'agit que d'avancer. Encore un pas juste à côté, encore de moi que j'ai laissé, comme un rebut, comme un déchet, un individu passager. Ce soir j'ai perdu par avance. J'ai perdu par avance. La rage au ventre, j'ai continué à me noircir, à m'écorcher, à me salir comme un damné que le monde aurait oublié. La peur en moi s'est installée, la peur de moi s'est immiscée. Je ne suis plus que le reflet de cet homme que tu as aimé. J'ai perdu par avance. Ce soir, j'ai perdu par avance. Thank you. jour veiller sur moi, penser les blessures de ma voix, pour qu'elle murmure encore tout bas les désordres qui s'installent en moi. Triste sourire, revenez-moi, réchauffez mon cœur en éclats, mes hivers qui n'en finissent pas, ma douleur de vivre ici-bas. Ce soir j'ai perdu par avance. Ce soir j'ai perdu par avance. Ce soir j'ai perdu par avance.
Vous êtes bien sûr Radio Onde dans Wagon Livre, l'émission littéraire de votre radio locale. À l'instant sur les ondes, le titre de Joseph d'Anvers, par avance, extrait de son dernier album Les Jours Sauvages. Joseph d'Anvers que vous aurez le bonheur d'entendre et de découvrir plus longuement au cours d'un entretien dans Wagon Livre sur Radio Onde. Dans le premier trimestre 2011, j'ai rencontré le 5 décembre dernier au Palais Ducal de Nevers, à l'occasion de la 11e édition du Salon du Livre des auteurs nivernais, j'ai découvert ce jeune homme né à Nevers et qui a fait paraître au printemps de cette année 2010 son premier roman. Un polar, un roman noir qui a pour titre « La nuit ne viendra jamais » aux éditions Latengo. À découvrir donc très prochainement, on vous tiendra bien évidemment informé. Il y a quelques minutes, il était question des historiettes des Granges Raffoux, à découvrir là encore sous la plume de Sylvain Luinati, Grand Prix Festilivre Bourgogne 2010, un livre que vous pouvez vous procurer auprès de vos libraires habituels aux éditions Vaillant. Je signale dès à présent, puisque je dispose de cette information, la tenue du Salon du Livre de Vallan, qui aura lieu le dimanche 6 février 2011, dimanche 6 février 2011, Salon du Livre de Vallan, à noter dans vos agendas et à inscrire dans vos tablettes. Nous continuons cette émission de compte-rendu du 21e Festilivre de Moneto. Faisons maintenant connaissance avec un écrivain professionnel indépendant. Voici Dominique, originaire de la région Rhône-Alpes, venu donc le 31 octobre dernier à Moneto, présenter son dernier ouvrage intitulé « La véritable histoire du Père Noël ».
Eh bien bonjour, merci de m'offrir la parole à tous les auditeurs de Radio Yonne.
Radio Yonne, excusez-moi.
Je suis Dominique, j'arrive de Lyon, comme vous le saviez, peut-être pas, mais maintenant vous le savez. Eh bien en fait, je poursuis ma collection Aventures cocasses et farfelues qui a démarré avec, un best-seller qui est notre ami Albert le Téméraire dans Opération Chaussette qui fait rire les gens. Et pourtant, les enfants adorent. Ils adorent rire, ils adorent l'imaginaire. Et donc, j'ai poursuivi avec l'histoire originale et très arrangée de... Et non moins vraie, pardon, de l'origine du nougat. Alors, j'aime bien ces petits titres à rallonge. Et puis, j'ai vu une effervescence, comme le cachet d'aspirine, pardon. Eh bien, j'ai vu que les enfants adoraient cet imaginaire un peu décalé, débridé, etc. Tout en restant quand même très correct. Hein. Il faut de l'humour, mais savoir le maîtriser. Et là, je me suis dit, on va aller en on y va. Et je suis allé sur un mythe qui est le Père Noël. Donc j'ai écrit l'histoire originale et très arrangée de l'origine du Père Noël en attendant l'histoire très invraisemblable et non moins vraie de l'origine du Père Fouettard. Donc à chaque fois ce sont des origines écrites à ma façon. J'y mets à l'intérieur beaucoup de choses vraies. Je ne dévoilerai pas ici bien sûr ce que je dis dans le livre, mais c'est aussi donc une manière de voyager autrement, sans démystifier bien entendu ses origines. Alors pour l'origine de nougat, c'était très facile puisqu'on n'a pas. Par contre, l'origine du Père Noël, là, je m'attaquais à quelque chose de très difficile. Donc j'y suis allé sur la pointe des pieds et ça fonctionne. Et ça fonctionne parce que les enfants, ils ne sont pas bêtes. Ils savent très très bien que l'oncle Dom, qui est le narrateur, qui elle est, on va le dire, ma propre personne, raconte cette histoire très très farfelue, une aventure, en fait. C'est une aventure. Un voyage, une aventure. Puis à la fin du livre, quand même, soyons sérieux. On va raconter la véritable origine du Père Noël. Parce qu'un livre, c'est vrai que c'est une récréation. C'est vrai qu'il faut passer un très très bon moment. Il faut que ça soit ludique, dynamique. Il faut que l'enfant ne s'ennuie pas. Mais il faut quand même aussi ne pas oublier qu'un livre, c'est aussi pour apprendre des choses. Mais il faut le faire très, très doucement. Comme me disent les enfants, on a déjà l'école. Alors si en plus, en dehors de l'école, on est obligé de se faire des livres, allez, j'ai dit l'expression « se faire des livres » parce que ça devient lourd, ben, on n'aurait plus envie de lire. Tandis que là, ben, j'espère, je m'aventure, moi personnellement, un peu sur des braises chaudes, ben, j'espère que mes livres sont un moment de récréation et que les enfants y trouvent un plaisir, mais alors, incommensurable. Merci docteur.
Merci Dominique. Je rappelle donc l'histoire originale est très arrangée de l'origine du Père Noël, donc texte signé par toi-même, Dominique, voilà. ICK à la fin, oui. Avec des illustrations de Raphaël Lénos.
Oui, Lénos. Parce que, alors juste un dernier mot, je travaille alors professionnellement, puisque je me présente très rapidement, Dominique, je suis écrivain professionnel indépendant et je travaille professionnellement avec des illustrateurs ou des illustratrices dont c'est le métier. Le but, c'est de continuer un voyage. Je pars toujours de voyage. Pour moi, c'est le plus important. Ce voyage qui doit être fait professionnellement, avec respect, surtout pour ceux qui vont nous lire. Et voilà. Allez, c'est une des clés du succès. C'est du travail dans son texte. Un travail recherché illustrateur, illustratrice professionnelle. Et un travail de composante pour faire votre livre, puisque nous construisons nous-mêmes nos livres. Et je crois que tout réuni, allez, cette mayonnaise, allez, on va dire même cette marmite, on le remet de toutes les sauces pour faire, puisque nous sommes à Halloween, faire ce bouillon de culture mais des sorcières, eh bien ne peut réussir qu'en mettant les bons ingrédients.
Ne t'approche pas comme ça. Ne t'approche pas comme ça. Tu vas me casser le cœur en mille morceaux et après, qui c'est qui balayera? C'est moi. Ne t'approche pas comme ça. Ne t'approche pas comme ça. Même si tu dis que tu t'en vas, c'est du pareil au même, tu sais. Je t'aime. Ne t'approche pas comme ça. Ne t'approche pas comme ça. Je vais te manger tout cru. Je vais te mettre nu. Et après, qui c'est qui prendra froid? C'est toi. Ne t'approche pas comme ça. Ne t'approche pas comme ça. Je vais t'aimer trop longtemps. Je vais oublier l'heure. Et après, qui c'est qui aura plus peur? C'est moi.
De compte-rendu du 21e Festilivre de Moneto qui s'est tenu le 31 octobre dernier. Je suis en compagnie, ils sont mari et femme, femme et mari dans la vie, donc Sophie Tétu-Rabussier et Christian Rabussier. Sophie Tétu-Rabussier, vous avez fait paraître au Panier d'Ortie, éditeur indépendant nivernais, dirigé par Richard Radon, que les auditeurs de Radion découvriront prochainement dans Wagon Livre. Vous êtes l'auteur donc d'un recueil de poèmes, alors je dis en prose, c'est ce qui est écrit sur la couverture, mais vous corrigerez d'ici quelques minutes. Recueil intitulé « Le jardin de mon âme ». Bonsoir Sophie Tétu-Rabussier.
Bonsoir.
Est-ce que vous pouvez vous présenter aux auditeurs de Radion brièvement?
Voilà, moi je m'appelle donc Sophie Tétu-Rabussier. Je suis poète, donc j'écris de la poésie libérée, de différents poèmes selon les thèmes qui m'inspirent. Et puis, parallèlement, je fais des histoires pour enfants. Et donc, j'ai voulu écrire ce recueil, c'est tout simplement en hommage à ma grand-mère que j'ai perdue il y a un an et demi et qui était poète à son tour, et j'ai voulu relever la promesse que je lui ai faite, sa dernière volonté, c'est-à-dire de prendre la relève, sa succession dans l'écriture, et voilà.
Alors, la quatrième de couverture, l'éditeur dit qu'il a pleuré en lisant ce manuscrit. Alors voilà donc des textes tristes, qui vont nous faire pleurer.
Disons que c'est un hommage à ma grand-mère, donc une grande partie y est dédiée. Et comme je l'adorais, j'ai laissé paraître dans tous les poèmes l'amour que je dégageais pour ma grand-mère.
Alors qu'y a-t-il dans ce jardin ?
Le jardin de mon âme donc est fait en trois parties. Une grosse partie que j'ai dédiée à ma grand-mère, une partie, je dirais, pas tout à fait érotique, mais un petit peu.
La sensualité,
voilà. Et puis une troisième partie diverse, pour montrer un petit peu le genre de poème que je pouvais faire et le genre d'écriture que je pouvais faire en un an et demi de poésie.
Et alors quels sont vos projets d'autres? Vous resterez dans le domaine poétique ou vous envisagez la prose romanesque ou du théâtre?
Ah, le théâtre, je ne sais pas. Là, on a un projet qui va sortir. Donc, c'est un livre en commun qu'on a fait donc avec mon mari, qui s'intitule Pour l'amour de Margot, avec différents poèmes qui sont donc qui portent sur l'amour. Et puis moi, par ailleurs, ce que j'aimerais faire, c'est publier mes histoires d'enfants que j'écris en plus. Et en même temps, par la suite, pourquoi pas faire publier un recueil de nouvelles que j'écris aussi également parallèlement.
D'accord. Donc vous n'êtes pas à court de projets?
Non.
Toujours peut-être au panier d'ortie ou chez un autre éditeur?
Si le panier d'ortie veut bien de moi, il n'y a pas de problème.
Merci Sophie Tétu-Rabussier. Alors on passe maintenant à votre mari, juste à côté de vous, Christian Rabussier. Alors Christian, lui aussi, se livre à la poésie en prose.
Oui. Alors
Christian, présentez-vous aux auditeurs de Radio Anne.
Alors je suis Christian Rabussier, j'ai 40 ans et on habite à Villiers-sur-Yonne. Hein, on est mariés depuis 10 ans. Et donc moi j'écris depuis le matin d'année. Donc, c'est-à-dire à partir de 1991, et le recueil Un homme fragile, c'est plusieurs recueils qui sont, on va dire, sur un même thème, sur la sensibilité, sur la fragilité de l'homme. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est par rapport à Sophie, c'est un recueil qui est assez triste, on va dire, mais il est prévu pour. C'est-à-dire que quand les premiers écrits, quand on commande dans l'écriture, c'est avant tout dans la tristesse. Mais ça, c'est tout à fait normal. Hein. Et donc, ça fait comme une vingtaine d'années que j'écris. Il y en a d'autres sur d'autres thèmes que j'écris par thème. Il y en a d'autres sur le bonheur. Et donc, mes premiers tests, pareil, qui seront faits, vont apparaître dans le prochain livre Pour l'amour de Margot, qui a été commencé à partir dans les premières années. Voilà. Et c'est vrai que ce livre-là, bon, ça parle parce que de l'handicap de l'homme, mais ça peut parler sur tous les handicaps des personnes, parce que c'est vrai que je suis malentendant, avec un problème de santé, mais j'ai fait apparaître ce livre, tout cela. Et c'est vrai qu'un homme fragile, bon, il a reçu un deuxième prix régional de la SPAF.
Qu'est-ce que la SPAF?
Alors, la SPAF, c'est la Société Poétique des Artistes de France. C'était dirigé par Roland Forja, hein, de la délégation Bourgogne. Et maintenant, depuis cette année, c'est pris par Anne-Marie Slovac. Et donc, on fait tout avec Sophie, on fait une émission donc, sur une radio locale, Radio Fauteur, hein, de poésie, donc on participe aussi.
Alors, je trouve ça absolument formidable, parler de poésie sur des radios, je trouve merveilleux de mettre en valeur la poésie.
C'est vrai que quand on écrit de la poésie, ben, ça fait vraiment très peur. C'est vrai que c'est écrire, c'est bien, mais vendre un livre, c'est encore mieux. Et donc, quand on parle de poésie, ça fait très peur. Bon, pourquoi? Parce que la poésie classique peut-être fait peur aussi. Bon, c'est pour ça que je précise bien, c'est la poésie libérée, c'est-à-dire que tout le monde peut écrire la poésie.
Mais c'est une poésie libérée, c'est une poésie qui libère le lecteur ou c'est une poésie qui libère celui qui l'écrit?
Disons que c'est les deux. parce que je crois que j'écris, on écrit pour soi-même, mais en fait, quand on s'aperçoit, je me suis aperçu, il y a bientôt déjà un an que le livre est sorti, que ça touche énormément les personnes suivant le thème, parce que ça touche des fois la personne même qui le lit, quoi. Et c'est vrai que j'ai des retours de livres qui sont très bien, parce qu'il est déjà vendu à plus de 300 exemplaires. J'en ai déjà une centaine que j'ai déjà fait retirer, parce que maintenant ça fait déjà 400 exemplaires, et c'est vrai que ça marche bien, quoi. Mais c'est vrai.
Merci à vous deux. Sophie Tétu-Rabussier, Le Jardin de mon âme, recueil de poésie libérée, pour ne pas contrarier Sophie, et vous, Christian Rabussier, Un homme fragile, recueil de poésie en prose, là vous le revendiquez, en
oui,
prose.
Oui, mais ça c'est finalement c'est Richard qui me dit, parce qu'il ne faudrait pas marquer libéré en prose. Parce que...
Et c'est Richard Adam, vous parlez de Richard Adam,
voilà.
Donc, qui est universitaire et qui dirige Le Panier d'Ortie, éditeur indépendant que nous aurons l'occasion de recevoir dans Wagon Livre sur Radio. Merci à vous deux. Émission de compte-rendu du 21e Festilivre de Moneto avec Rémi Covignou, éditeur. Bonsoir Rémi Covignou.
Bonsoir Yannick.
Alors vous êtes éditeur, vous êtes à la tête et vous êtes le créateur des éditions de La Gazette 89 Éditions. Est-ce que vous pouvez présenter, Rémi Covignou, cette maison d'édition installée dans le nord du département?
La Gazette 89 Éditions est née il y a maintenant 4 ans pour publier un petit magazine traitant de l'histoire et du patrimoine de Lyon, qui ensuite s'est transformé en une maison d'édition de livres et brochures traitant du même domaine, mais au lieu d'être dans le secteur de la presse, elle est dans le secteur du livre, c'est-à-dire nous n'avons pas une publication régulière, mais des auteurs qui travaillent pour nous en publiant des brochures de 24 à 32 pages, toujours sur des sujets directement liés à l'histoire et au patrimoine de Lyon. Ici à Moneto, nous avons depuis ce matin un défilé des auteurs de la Gazette 89. Pierre Glézal, qui a beaucoup travaillé sur le légendaire du département. Bernard Richard, agrégé d'histoire, qui est venu présenter son livre sur Madeleine Sophie Barra.
La sainte de Joigny,
exactement. Rémi Fauchereau est passé pour nous parler des livres sur les ovnis, les manifestations ovnis dans Lyon. Et Josiane Maxel, qui est passée pour présenter son petit ouvrage sur Max Blondat, un sculpteur né à Crin. Donc, nous avons toujours des sujets directement liés à Lyon. Personnellement, je suis éditeur, mais de temps à autre, j'écris un petit peu. Et j'ai publié récemment un ouvrage sur le docteur Petiot. Plus exactement, non pas la énième biographie du docteur Petiot, mais une relecture critique de ce qui a déjà été publié sur ce personnage, ancien maire de Villeneuve-sur-Yonne, peut-être destiné à devenir député, dont la carrière a été interrompue par une succession de crimes qu'il a commis et qui l'ont conduit à l'échafaud juste après la Deuxième Guerre mondiale. J'ai également travaillé avec Pierre Glézal sur le thème de la légende de la bique qui a pris le loup, la chèvre qui a pris le loup, qui est une légende très particulière puisqu'on la raconte dans une quarantaine de villes de France et d'Europe. Particularité, on la raconte toujours comme si elle s'était produite dans la ville en question. Par rapport à, exemple, Pierre et le loup, qui est une autre légende, on la raconte comme s'étant produite, on ne sait pas très bien où, mais cette légende de la chèvre a pris le loup, on la rencontre en Belgique, en Hollande, en Allemagne, en Suisse, en Italie, dans la région germanophone d'Italie, et en France, avec parfois un mouton, quelques petites variations. Mais c'est très intéressant parce que nous recherchons de nouveaux témoignages sur cette légende puisqu'on sait qu'il y a encore pas mal de villages que nous n'avons pas découverts. Mais toujours en partant de Lyon puisque ça s'est produit à Etigny.
Alors quels sont les projets de la Gazette 89 édition? Les sujets ne manquent pas, les auteurs ne manquent pas?
Les auteurs ne manquent pas, ils me contactent et ils me font une proposition. Si elle rentre dans la niche éditoriale, j'accepte le manuscrit s'il répond à la qualité que j'attends de mes productions. Et sinon, je contacte des auteurs que je connais en leur proposant de travailler sur leur thème de prédilection. Par exemple, les prochains projets sont Jean-Luc Prieur, qui est bien connu dans le nord du département pour ses recherches sur la Deuxième Guerre mondiale. Nous allons travailler sur les traces laissées par les combats de la Deuxième Guerre mondiale dans tout le Sénonais, puisqu'on retrouve encore aujourd'hui des traces matérielles de ces combats. Personnellement, je travaille sur deux sujets, toujours en archéologie industrielle, qui est une de mes préférences, c'est-à-dire les traces aujourd'hui disparues d'événements qui se sont produits depuis le début de l'ère industrielle. Exemple, les anciennes éoliennes géantes dans le département. Nous avons été un département qui a eu beaucoup d'éoliennes hydrauliques, hein, je m'entends, sans les c'est pas du tout des générateurs électriques. Et les anciennes lignes de chemin de fer également. Il y en a eu beaucoup qui aujourd'hui ont totalement disparu, mais on trouve encore des traces de ces lignes un peu partout.
Alors Rémi Covignoux, un dernier petit mot, s'il vous plaît, sur Iris Eros.
Iris Eros est une nouvelle collection que nous avons ajoutée, qui n'a strictement rien à voir avec l'histoire et le patrimoine, le folklore, mais c'était une proposition, j'ai reçu des propositions de textes érotiques, d'une excellente qualité littéraire, et je me suis dit que je pouvais essayer de les produire, donc de les distribuer également, parce qu'il y a un marché pour cela, comme il y a un marché, mais c'est réellement de la littérature, avant tout de la littérature. C'est une aventure nouvelle, on va voir ce que ça donne, je ne sais pas encore. Bon, peut-être que ça continuera, peut-être pas, on verra.
Rémi Covignoux, je vous remercie, et puis il est bien évident qu'en 2011, on aura l'occasion de vous retrouver
j'espère, certainement,
dans Wagon Livre sur Radio Neige.
Et je vous tiendrai au courant de toutes les nouveautés.
Merci Rémi Covignoux.
Merci.
En sortant de l'école, nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous a emmenés tout autour de la terre dans un wagon doré. Tout autour de la terre, nous avons rencontré la mer qui se promenait avec tous ses coquillages, ses îles parfumées et puis ses beaux naufrages et ses saumons fumés. Au-dessus de la mer, nous avons rencontré la lune et les étoiles sur un bateau à voile, partant pour le Japon. Et les trois mousquetaires des cinq de la main, tournant la manivelle d'un petit sous-marin, plongeant au fond des mers pour chercher des oursins. Revenant sur la terre, nous avons rencontré sur la voie de chemin de fer une maison qui fuyait tout autour de la terre, fuyait tout autour de la mer, fuyait devant l'hiver qui voulait l'attraper. Mais nous, sur notre chemin de fer, on s'est mis à rouler derrière l'hiver, et on l'a écrasé, et la maison s'est arrêtée, et le patron nous a salué. C'était lui le garde barrière, nous a bien remercié. Et toutes les fleurs de la terre soudain se sont mises à pousser, pousser à tort et à travers, sur la voie du chemin de fer qui ne voulait plus avancer, de peur de les abîmer. Alors on est revenu à pied, tout autour de la terre, à pied. À cheval, en voiture et en bateau à voile.
Toujours sur Radion, l'émission Wagon Livre, l'émission littéraire de votre radio locale. Émission ce soir de compte-rendu du 21e Festilivre de Moneto qui avait lieu le dimanche 31 octobre dernier. Et je suis avec Ève Allard. Bonsoir Ève.
Bonsoir.
Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement aux auditeurs de Radion et nous présenter votre dernier recueil de poèmes qui a pour titre Niagara?
Alors, je m'appelle Ève Allard. J'habite près de Toussy, dans les bois, tranquillement. Et je présente en effet ma récolte de poèmes de l'année 2008. Il me faut un certain temps pour donner forme à tout ce que je peux écrire durant environ une année. Et tout cela tient cette fois dans un recueil qui s'appelle Niagara, parce que c'est le titre de l'un des poèmes qui se trouve dans le recueil.
Alors, on est toujours dans le lyrisme avec Niagara, ou est-ce qu'on est dans des poèmes qui mettent en valeur les préoccupations de Ève Allard dans sa solitude, qui réfléchit, qui se laisse habiter par les sensations, ce qu'elle éprouve et ce qu'elle peut ressentir aussi?
C'est une solitude qui est très ouverte sur les autres.
Solitude choisie.
C'est une solitude choisie, bien consentie, qui me laisse énormément de disponibilité. Et cette disponibilité me permet d'être en relation avec beaucoup de personnes autour de moi et puis un peu plus largement en Bourgogne, dans la région.
Alors en plus, le Festilivre cette année, c'est une affaire de famille puisque votre frère a remporté le prix Festilivre Bourgogne.
Tout à fait, je dois dire que...
Pourriez-vous nous en parler un peu, s'il vous plaît, Eve ?
J'ai été un petit peu derrière lui parce que j'ai été sa première lectrice. C'était son premier roman et il était très discret là-dessus. Et je lui ai dit, eh bien, il y a encore une étape. Il faut absolument sortir cela de chez toi. Il faut qu'un auteur assume ce qu'il a écrit. Ce n'est pas fait que pour rester dans son tiroir. Donc, je l'ai poussé à participer à ce concours parce que je savais que ça marcherait. Ça marcherait.
Eve, donnez-nous le titre et le nom de votre frère pour les auditeurs de Radion, s'il vous plaît.
Alors, c'est Sylvain Luinati et son ouvrage s'appelle « Les historiettes des granges rats fous ». Et ça parle de l'Europe à partir d'un micro-village de la Nièvre. Voilà.
Merci Eve Allard. Alors, vous êtes membre de l'association Colliambe, présidée par Olivier Grandjean, et à vos côtés se trouve Jean-Pierre Mercier. Bonsoir Jean-Pierre Mercier.
Bonsoir.
Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement aux auditeurs de Radio ?
Oui, tout à fait, d'autant plus que l'enchaînement est tout à fait facile, puisque les historiettes décrites par le frère d'Eve Allard, j'aurais pu être un des témoins, puisque ça se passe dans un village où je suis né. Donc ça veut dire que je suis originaire du Morvan, même si je demeure à Bourges. Ma présence aujourd'hui à Moneto et s'inscrit dans le cadre de nos bonnes relations, puisque je fais partie également de l'association Colliambe.
Alors Jean-Pierre Mercier, j'ai entre les mains plusieurs de vos publications que je ne connais pas encore, je vous prie de m'en excuser. Alors vous avez, vous aussi comme Eve, la passion des mots, du beau langage et de la poésie. Je vois notamment un recueil qui a pour titre « Par des parfums amoureux » et « Nocturne », signé donc Jean-Pierre Mercier.
Alors ça, c'est un recueil, on tient beaucoup à ces recueils. Je ne suis pas père de famille, mais je pense qu'on tient à ces recueils un petit peu comme on tient à ses enfants. Et la bonne année, puisque c'est un sujet aussi d'actualité, la retraite. J'ai eu la chance de connaître cette retraite. Et la première année de ma retraite, j'ai pu rassembler deux recueils. L'un, c'est celui dont vous venez de citer, qui est une histoire d'amour. Une histoire d'amour que j'ai racontée en poème. Et l'autre livre, c'est celui-ci, c'est « Je prends une poignée de sable ». C'est un extrait d'une phrase de Borges. « Je prends une poignée de sable et je modifie le désert ». Et là, c'est plutôt des poèmes qui touchent le cœur et la raison, tout ce qui m'indigne. Et je l'ai rassemblé, je n'ai pas voulu mêler les deux recueils, pour ça qu'ils se présentent de façon différente.
Alors, il y a des poèmes 2006 regroupés, eux, dans un recueil qui a pour titre « Coup de frein ».
Alors, « Coup de frein », parce que ça faisait déjà longtemps que j'étais resté 6 ou 7 ans sans publier. Et ce recueil, il est à la fois simple et ambitieux. Simple, parce que ce sont des poèmes écrits au fil du temps de 2006. J'ai voulu montrer que la poésie, c'était quelque chose qui se vivait au quotidien, que ce n'était pas un exercice intellectuel. Et ça, j'y tiens énormément, parce que je ne vous poserai pas qu'on nous prenne pour ce que nous ne sommes pas. Au contraire, nous sommes des témoins de notre temps. Et nous avons la chance de pouvoir l'écrire.
Et qu'apprends-je, Jean-Pierre Mercier ? Vous êtes fils de mai 68 avec ce dernier livre paru en collection Saja, « Moi, fils de mai 68 ».
Et oui, je ne peux même pas cacher mon âge. Donc, j'avais 22 ans en mai 68. Et en fait, j'ai voulu écrire ce livre qui est un témoignage en prose qui est enrichi, j'espère enrichi, de poèmes qui sont liés à cette époque. C'est un témoignage de ce que j'ai vécu en mai 68, d'où on venait, surtout d'où on venait, ce milieu rural, puisque la décentralisation, tout ce qu'on a pu vivre, et pour le raconter à un neveu et à une nièce, à mon neveu et à ma nièce, qui connaissent beaucoup de choses ou sur l'automobile ou sur l'économie mondiale, mais qui ne connaissaient pas ce qu'était mai 68. Donc j'ai voulu leur laisser ce témoignage, et en fait, c'est vrai que ce n'est pas un acte militantisme, hein, ce n'est pas un acte ni pour ni contre, c'est simplement le témoignage, ce que moi j'ai vécu. C'est pour ça que le titre est tout à fait juste, « Moi, fils de mai 68 ». Parce que s'il n'y avait pas eu mai 68, je ne pense pas que je serais là aujourd'hui. Donc, il faut être reconnaissant aux événements qu'on a subis, vécus, avec foi et passion.
Je rappelle donc le titre du recueil de poèmes de Eve Allard, « Niagara » et « Moi, fils de mai 68 » de Jean-Pierre Mercier. Merci à vous deux.
Merci.
Compte rendu ce soir, toujours dans Wagon Livre, du 21e Festilivre de Moneto. Alors, je suis entouré de dames, elles vont avoir chacune, l'une après l'autre, la parole. En face de moi, Sandra Amani. Sandra Amani, bonsoir Sandra.
Bonsoir.
Alors Sandra, tu viens de faire paraître Les Mystères du Nivernais, sous-titré Histoires insolites, étranges, criminelles et extraordinaires aux éditions de Boré. Alors on te connaît, et les auditrices et auditeurs de Radio te connaissent peut-être pour d'autres écrits, car ce n'est pas ton premier ouvrage. Il y a Les Légendes du Morvan, paru aux éditions de l'Escargot Savant, Les Histoires mystérieuses de châteaux en Bourgogne, toujours chez l'Escargot Savant, et puis il y a eu Les Légendes du Vignoble, toujours aux éditions de l'Escargot Savant. Et là, on change d'éditeur, chez De Boré, donc Les Mystères du Nivernais, Sandra, que je te demande, s'il te plaît, de présenter à nos auditeurs.
Alors, on change d'éditeur, oui, mais on ne change pas forcément de thème, puisque dans Les Mystères du Nivernais, je relate énormément de légendes, mais également de faits divers, anecdotiques. Enfin, je parle de tout ce qui possède un caractère mystérieux, dans le Nivernais, certes, mais également dans le Morvan. Et donc, j'insiste sur le fait que nous trouvons aussi des légendes concernant Lyon, comme la légende de la pierre qui vire à Saint-Léger-Vauban, ou la légende de la roche des fées à Carré-les-Tombes, en passant également par Sainte-Diétrine à Saint-Germain-des-Champs. Donc, tout ceci parce que je vais rappeler que le Nivernais, au début du siècle, regroupait la Nièvre, mais également le Morvan. C'est ainsi que c'est ainsi que les habitants du Morvan appelaient leur région.
Ce qui est surprenant, c'est que toi qui es professeur de français à Chablis, tu es né à Paris, me semble-t-il, et tu as grandi dans le Morvan aux côtés d'un grand-père que tu as adulé.
Oui, que j'ai adulé, adoré, et qui m'a énormément apporté en ce qui concerne justement les faits divers, les légendes. On se promenait dans le Morvan, on allait à la recherche des pierres légendaires, tous les deux, main dans la main. Il me racontait les histoires. Donc moi, j'ai eu envie à mon tour de faire partager toutes ces histoires qui sont très chères à mon cœur.
Alors un gros travail, je pense, de recherche et de documentation.
Énormément, oui, parce que la différence entre les légendes précédentes et ces mystères du Nivernais, c'est que j'ai parcouru les bibliothèques, les ouvrages de bibliothèques, et j'ai apporté une grande contribution, on va dire, sur le plan historique. Et ça, c'est la différence. Je ne me suis pas contentée d'écrits littéraires. J'ai effleuré l'histoire.
D'accord, Sandra. On espère te recevoir plus longuement dans Wagon Livre sur Radion. Donc, je rappelle le titre de ton dernier ouvrage, Les Mystères du Nivernais, sous-titré Histoires insolites, étranges, criminelles et extraordinaires aux éditions de Boré. Merci, Sandra. À très bientôt sur Radion.
Au revoir.
Alors, je me tourne cette fois-ci du côté de trois drôles de dames qui ont des liens d'amitié et de complicité entre elles. Carole Borda. Bonsoir Carole.
Bonjour Yannick.
Il y a à vos côtés alors Liliane Privé, avec laquelle vous avez commis un ouvrage qui s'intitule « Regard poétique sur ma ville ». C'est un regard poétique sur la ville d'Auxerre. Donc les photos sont de Liliane Privé et ces photos sont illustrées, ou c'est l'inverse peut-être, accompagnées de poèmes signés de ta plume, Carole Borda. Donc, Carole, tu peux te présenter à nos auditeurs et ensuite tu nous présenteras une demoiselle qui est à tes côtés et qui brûle d'impatience d'intervenir. Carole, tu te présentes, s'il te plaît ?
Oui, je me présente. Je m'appelle Carole Borda, j'habite à Auxerre, j'ai découvert ma plume à l'adolescente en sortant un premier ouvrage, L'Enfant délivrance. J'ai replongé ensuite dans plutôt des œuvres fantastiques. Et là, aujourd'hui, nous recevons un prix qui est presque une création d'amitié autour de regards poétiques sur ma ville, avec d'une part des photographies, le regard en fait de Liliane et ma plume qui s'inspire de son regard.
Donc c'est le prix détente décerné par le 21e Festilivre ici de Moneto. Alors Carole, maintenant, j'aimerais que tu nous présentes ton dernier roman intitulé Chris, l'expérience temporelle. C'est le tome 1, c'est-à-dire qu'effectivement tu nous en prépares d'autres. Alors le tome 1, de quoi s'agit-il ?
Alors le tome 1 est vraiment le premier volet de la trilogie, c'est toute une réflexion personnelle autour de 2012. On entend parler les adultes mais aussi la crainte des enfants autour de 2012.
Alors explique peut-être pourquoi ces craintes autour de l'année 2012.
La fin du monde. On parle de la fin du monde. Est-ce que c'est vraiment la fin du monde ou des mondes? En tout cas, j'avais envie qu'un personnage ait la faculté de passer les portes du temps pour découvrir le futur et savoir s'il y avait une possibilité de savoir ce qui allait se passer en 2012. Et est-ce que ce serait vraiment négatif? J'avais envie que ma plume s'exerce un peu à cette réflexion. Et finalement, ma plume m'a emmenée et m'emmènera, j'espère, jusqu'au bout de cette trilogie, avec le premier tome 1, où on trouve un homme amnésique au bas des falaises du Saussois, il est vraiment dans notre région, et une enquête d'un détective privé qui va l'amener à découvrir ce qu'il est vraiment et quelle est sa mission.
Alors, j'aimerais que tu nous présentes la demoiselle qui se trouve à tes côtés, Carole. Tu l'as désignée ta filleule en littérature, en écriture. Tu nous la présentes, cette jeune fille?
Ben oui, je vous présente avec plaisir, justement, ma filleule. Je m'appelle un peu sa marraine de plume. C'est Camille Paquin, que j'ai rencontrée il y a un an au Salon de Livres de Moneto et qui avait une furieuse envie d'écrire, et je l'ai aidée sur ce chemin d'écriture, et aujourd'hui je suis fière de l'avoir à son stand et de présenter son premier recueil de poèmes qui s'appelle Mon Envol.
Camille Paquin, alors quelles sont les thématiques, quels sont les sujets des poèmes que l'on trouve dans votre recueil? Vous en rappelez le titre, s'il vous plaît?
C'est un recueil qui s'appelle Mon Envol. Ça parle de moi, de mes ressentis, de ce que j'ai vécu, de ma vie, quoi.
Ce sont des poèmes tristes ou joyeux?
Il y a un peu des deux, ça dépend mes envies, ce que je ressens.
Ce sont des poèmes romantiques dans la mesure où vous... Je ne sais pas, je ne les ai pas lus, Camille, je vous prie de m'en excuser, mais est-ce que ce sont des poèmes à travers lesquels vous relatez des expériences heureuses, des expériences malheureuses par rapport à la vie d'une jeune adolescente, d'une collégienne?
Je relate tout ça, en fait. Je relate tous mes ressentis, aussi bien la peur, la douleur, la tristesse et la joie.
Donc si j'ai bien compris, finalement, on est dans une poésie lyrique où vous mettez en avant le moi et ses sentiments. Camille, vous qui êtes une jeune fille, pouvez-vous me dire si vous lisez beaucoup?
J'adore lire.
Que lisez-vous?
Un peu de tout. Je lis surtout ce qui est fantastique.
Quels sont vos auteurs de prédilection?
Stéphanie Meyer. Je lis aussi les ouvrages de Carole.
Est-ce que vous lisez des nouvelles, des romans? Est-ce qu'il y a des romanciers classiques du 19e, Balzac, Zola, Flaubert? Est-ce que ce sont des auteurs que vous abordez un peu pour votre plaisir et aussi pour construire et augmenter sa capacité de création littéraire?
J'aime lire du Shakespeare. Ça, je trouve que c'est... Ça m'apprend beaucoup de choses.
Et vous envisagez de continuer l'écriture avec d'autres projets, peut-être un roman ou une pièce de théâtre ou une autre forme littéraire?
Peut-être, on ne sait jamais.
Et savez-vous déjà quel métier vous souhaitez faire? Est-ce qu'il aura un lien avec l'univers culturel ou l'univers artistique ou littéraire?
Je veux être éducatrice spécialisée.
On comprend en fait pourquoi entre Carole et vous il y a une grande complicité et sans doute une compréhension mutuelle.
Je me vois à 14 ans, c'est pour ça que je lui ai dit je vais te donner la chance que je n'ai pas eue à 14 ans.
Carole, donc on rappelle, merci Camille Paquin, donc Envol de Camille Paquin, recueil de poèmes, et puis le dernier roman de Carole Bordin intitulé donc Chris, l'expérience temporelle, c'est le tome 1. Et puis, rappelons, Regard poétique sur ma ville en collaboration photographique avec Liliane Privé. Recueil de poèmes signé Carole Borda et de photographies signées Liliane Privé. Recueil signé de... Effectivement, Carole Borda, Liliane Privé, primé au Festilivre, 21e Festilivre de Moneto. Merci, mesdames.
Merci beaucoup.
J'avais pas fini de boire mon quart, je devais partir à moins quart, tout à faire cessante. Je revoyais la maison et l'oiseau et l'enfant son et la belle infante. Et dans les lointains si bleus, je voyais le bleu de vos yeux. Dites-moi en quelle saison et dans quel pays sont les belles errantes. Que dis-tu, que dit-on, que dit-elle donc la belle absente. Et dans les lointains si bleus, voit-on le bleu de vos yeux? On dit qu'elle est dans un train qui s'en va vers Abyssin, au fond d'Éthiopie. Que ses cheveux teints noirs flottent dans le vent du soir, que parfois elle soupire. Et dans les lointains si bleus, elle voit le bleu de vos yeux. Le facteur lui porte un pli, la signature lui sourit, aboie dans la lettre. Elle monte sur un cheval qui fait teinter ses sonnailles et pensive s'arrête. Et dans les lointains si bleus, elle voit le bleu de vos yeux. Elle décide de se coucher, se déshabille pour se baigner dans un lac d'eau fraîche. Le fils de roi n'est pas passé, le canard blanc n'est pas tué. Elle se penche à la fenêtre. Et dans les lointains si bleus, elle voit le bleu de vos yeux. Est-ce vous, cette femme dont le souvenir se fane en ma mémoire? Nous sommes-nous rencontrés? Êtes-vous entrés sans frapper au fond de mon âme? Pour que dans les lointains bleus, toujours je revois vos yeux.
Julos Bocarne, à l'instant sur Radion. On poursuit cette émission Wagon Livre, émission de compte-rendu du 21e Festi-Livre de Moneto. Ils étaient les illustres parrains de l'édition de cette année à Moneto, la romancière Jacqueline Monsigny et son mari, l'acteur américain Edward Mix. Edward Mix a joué aux côtés de Yves Régnier dans une série télévisée des années 60, Les Globetrotters. Et Edward Mix a d'ailleurs raconté ses souvenirs de tournage autour de cette désormais célèbre série télévisée. Il a raconté ses souvenirs dans un livre intitulé « Les Globetrotters, ma grande aventure ». Ce livre a paru aux éditions Vaillant. Faisons donc connaissance avec ce charmant couple et c'est avec plaisir que l'un et l'autre ont répondu à nos questions pour Wagon Livre. Après avoir été actrice puis animatrice à la télévision française dans les années 60, j'ai demandé à Jacqueline Monsigny de nous parler de son dernier roman intitulé « La Viking, princesse des glaces » paru aux éditions Alphée.
« La Viking », c'est un roman que j'aime beaucoup. Parce que finalement, d'abord, je suis normande, du Cotentin. Alors évidemment, j'ai toujours été élevée dans ma famille. On m'a toujours dit que nous descendions en ligne droite du premier duc de Normandie, c'est-à-dire Roland le Viking. Je ne peux pas vous assurer que ma mère avait complètement raison en nous disant ça. Mais en tout cas, ça a été le leitmotiv de ma jeunesse. Et j'ai eu envie d'écrire un livre sur les Vikings. Et je me suis dit, finalement, quand on parle des Vikings, c'est toujours des hommes. Mais ils avaient bien des femmes, ces gens-là. Et effectivement, en travaillant l'époque viking, il y a eu des reines, il y a eu des princesses, il y a eu des femmes vikings qui ont eu une grande, grande importance. Et alors, j'ai décrit l'histoire de cette femme viking que j'ai en partie inventée, mais en même temps, dont je me suis...
Mais le dernier livre de Jacqueline, après le viking, c'est le livre sur Normandie. Et c'est absolument fabuleux. Parce qu'en lisant ce livre de Jacqueline sur la Normandie, on dirait que c'est un livre de fiction et le personnage principal s'appelle Normandie et Normandie est en train de vivre les choses vraiment passionnantes.
C'est-à-dire que la Normandie, les hommes préhistoriques vivaient sur une terre qui montait très très haut, donc ils n'ont jamais connu la mer. Sur notre continent, n'est-ce pas ? Il n'y avait pas la mer. Et puis, il va y avoir une catastrophe géologique, un glacier qui va péter pendant des milliers d'années, qui va déverser de la glace sur la Terre et qui va creuser la Manche. Donc, quand tout se calme, après des milliers et des milliers d'années, la Normandie à cette côte magnifique avec ses ports naturels. Elle est découpée d'une façon ravissante par le glacier. Et de là-haut, eh ben, la terre est montée, c'est l'Angleterre. Donc ça va tout changer. Ça va changer l'histoire de l'Angleterre et de la Normandie et aussi de la France. Parce que, évidemment, sur l'île, ils n'auront qu'une idée, c'est de venir occuper la Normandie. Et les Normands n'auront qu'une idée, c'est d'aller occuper l'Angleterre. Et ça va durer, en tout cas, déjà au moins minimum la guerre de 100 ans. Moi, je mets même ça carrément plus loin, parce qu'il me semble que la guerre entre les Anglais et les Français, ça va durer jusqu'à Waterloo, au moins.
Et que lisez-vous, alors autrement, quel genre de livre vous fait plaisir? Vous lisez à la maison, oui?
Ah ben, je lis beaucoup de choses, parce que je suis présidente du prix des romancières. Donc déjà, on nous envoie dans le jury des romancières. Il y a des femmes comme Frédérique Ebrard, Françoise Dorin, Janine Boissard. Donc nous lisons beaucoup. Et ça, j'aime beaucoup lire les livres que je reçois. Ce sont des livres modernes. Mais je lis beaucoup aussi pour écrire. Moi-même, parfois, quand ce sont des livres historiques, de la documentation. Quand j'ai lu sur les Vikings, j'ai lu évidemment tous les auteurs qui ont écrit sur le sujet, des choses très sérieuses. Donc ça prend beaucoup de temps. Et puis j'ai mes livres de chevet préférés, bien sûr, comme tout le monde.
Quels sont vos livres de chevet?
Ah ben, ça reste Les Trois Mousquetaires, éternellement.
Un peu de poésie?
Je ne lis pas beaucoup de poésie. Quand on m'en envoie, j'en lis, bien sûr. Mais peu, finalement. Le livre de poésie que j'ai le plus aimé, c'est Paroles de Prévert. Ça, c'est vraiment... Mais c'est vrai que Les Trois Mousquetaires restent pour moi le chef-d'œuvre absolu.
Et vous, Édouard Mix?
Écoutez, on a tous les deux lu un livre qui nous a fait beaucoup rire dernièrement. C'est le livre d'autobiographie de Francis Weber. Et il est extraordinaire. On passe notre temps en train de dire oh, on a ri sur ça.
Oui. Là, c'est un livre que nous venons de lire, mais ce n'est pas un livre de chevet. Toi, je pense que quand tu veux lire un livre de chevet, c'est Camus, Edouard. Voilà, c'est Marcel Camus. Il est venu en France parce qu'il avait lu Marcel Camus.
C'est son discours, justement, à Stockholm que j'ai trouvé.
Albert Camus.
Oui, oui.
Albert.
Bah oui, Marcel, pardon.
C'est Albert.
C'est le metteur en scène. Albert pardon, Camus. Oui, j'ai vu.
Tu as dit Marcel, je n'ai pas entendu.
J'ai dit Marcel à cause de...
Non, Albert Camus, justement, son discours. Discours à Stockholm, c'est...
Bon, voilà, c'est au moment de l'obtention du prix Nobel de littérature.
Oui. C'est fabuleux. Il a tout dit, là. Il a tout dit pour un artiste. C'est un encouragement. C'est comme si on est porté par quelque chose après. C'est fabuleux. C'est presque ça qui m'a porté autant que le bateau avec lequel je suis venu. C'est Camus, justement, qui m'a aidé à traverser l'Atlantique. Quoi.
Et c'est un Américain qui dit cela. On... Jacqueline Monsigny, un dernier petit mot pour les auditeurs de Radion.
Eh bien, d'abord, nous aimons votre région. Nous avons aimé, c'est aujourd'hui le public de Moneto, qui était bien sûr des environs de Moneto et d'Auxerre. Et nous avons pris grand plaisir à parler avec beaucoup de monde. Une atmosphère amicale, sympathique.
Nostalgique aussi, j'imagine.
Vous croyez que c'était nostalgique? Je n'ai pas senti de tristesse chez eux. Dans la nostalgie, il y a un peu de tristesse, toujours, non?
C'est vrai.
C'était très amical, très, très joyeux, très, très calme aussi en même temps. Et donc, nous espérons revenir dans cette belle région.
Jacqueline Monsigny, Édouard Mix, merci à vous deux d'avoir accepté cet entretien pour l'émission littéraire de Radion Wagon Livre.
Merci à vous.
Merci à vous.
Wagon Livre touche à sa fin. Merci d'avoir suivi cette émission de compte-rendu du 21e Festi-Livre de Moneto qui s'est tenu à l'automne dernier, le 31 octobre très précisément. Retrouvez dès demain cette émission en téléchargement sur le site internet de Radion. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver les références des ouvrages des auteurs interviewés sur le blog de l'émission Wagon Livre. Vous tapez à partir d'un moteur de recherche Wagon Livre ou blog Wagon Livre et vous nous trouvez très facilement. Et bien évidemment, puisque nous sommes d'une grande modernité, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook. Et là, sur Facebook, vous demandez à être ami avec Wagon Livre Yannick Petit.
Avant de nous quitter et de vous donner le thème du programme de la semaine prochaine, une petite information, Maison de la Presse et Librairie. Le mercredi 22 décembre, dans l'après-midi, c'est-à-dire dans une semaine, Bernadette Courtois, dédicace au relais nucérien, c'est-à-dire à Noyères-sur-Serein, Bernadette Courtois dédicace son dernier roman, La moisson des pierreux, paru très récemment aux éditions de L'Armançon. C'est au relais nucérien à Noyères-sur-Serein, mercredi 22 décembre, dans l'après-midi. Avant de nous séparer pour laisser place au programme musical de la nuit de votre radio locale, je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 21h pour une émission consacrée à des contes de Noël en compagnie de Lucette Desvignes, universitaire, agrégée d'anglais aujourd'hui à la retraite, et c'est très gentiment qu'elle nous a reçus à Dijon et elle reviendra pour nous sur un recueil de contes qu'elle a fait paraître il y a maintenant 10 ans, Le Père Noël est un chien aux éditions de L'Armançon. Excellente fin de soirée, merci de votre fidélité. À la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Au revoir à toutes et à tous.